Permettez-moi de commencer par un peu d'histoire sur cette fête de la Théotokos, Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est en 451, au concile d'Éphèse, que les évêques se sont rassemblés, car une polémique est en train de faire rage dans la société de l'époque, d'une nature un peu plus riche et élevée que celle qui traverse nos sociétés actuelles. Car à Constantinople, on a pris l'habitude de vénérer l'icône de la Vierge Marie. Et donc, s'il y avait eu des réseaux sociaux à l'époque, voilà de quoi les débats auraient été nourris. Et donc, toute la question, c'est de savoir s'il est légitime d'appeler Marie Mère de Dieu, puisque Dieu est incréé, Dieu est éternel, Dieu n'est engendré par personne. Et donc, cette expression de Mère de Dieu semble faire craindre une hérésie. En fait, évidemment, quand on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, et là-dessus le Concile d'Éphèse le précise bien, on dit que Jésus étant vraiment Dieu, il est juste d'appeler Marie Mère de Dieu, et on ne soutient pas ou suppose pas que Dieu aurait commencé dans le temps. C'est quand il est entré dans le cours du temps, comme dit la préface de ce temps de Noël, que à ce moment-là, il a voulu passer par le canal d'une vie, d'une filiation reçue d'une mère humaine. Et c'est important parce que cela veut dire que s'il est le fils qui est passé, un fils qui est passé par une maternité, eh bien cela veut dire que à ce moment-là, il est vraiment homme. Mais dire mère de Dieu, c'est aussi affirmer qu'il est vraiment Dieu. Et après l'interminable querelle de l'arianisme qui niait la divinité du Christ, dire que Marie est mère de Dieu, c'est réaffirmer en même temps qu'il est vraiment Dieu. Et donc c'est une manière de tirer un coup de feu dans chaque camp, du côté des Ariens et du côté de ceux qui nient également la vraie humanité de Jésus, les monophysites. Et par cette formule de Sainte Marie, mère de Dieu, en quelque sorte, on tient une ligne d'équilibre théologique et de justesse d'expression de la foi catholique. Mais au travers de cela, qui peut-être nous paraît étonnant parce que ces polémiques qui dégénéraient parfois assez violemment, il faut reconnaître. Peu de temps après, à Éphèse, il y a eu le brigandage d'Éphèse, donc des moines qui sont arrivés avec des gourdins pour castagner sur une formule théologique et même envoyer quelques évêques à l'hôpital. C'était assez vigoureux, vous voyez, et passionné comme débat à l'époque. Comme quoi on s'affole de quelques petites quolibets dans nos assemblées, voilà. Mais là, vous voyez, c'était plus chaleureux, vous voyez, et plus viril. En tout cas, cette affirmation recèle quelque chose de très profond et de très important, frères et sœurs. Vous voyez, les lectures que nous avons eues aujourd'hui évoquent à plusieurs reprises la question de la filiation. La bénédiction d'Aaron, qui est si belle que nous avons entendue en première lecture, il s'agit de parler à tes fils et de faire venir sur les fils d'Israël une bénédiction. Vous bénirez les fils d'Israël. C'est intéressant, voyez, avoir des fils, ce n'est pas simplement leur donner la vie humainement, biologiquement, ce n'est pas simplement procréer. Fondamentalement, la relation filiale dans l'Écriture a vocation à être une relation de bénédiction. Il ne s'agit pas simplement, lorsque l'homme donne la vie, de perpétuer l'espèce. La filiation, c'est ce qui caractérise la vie de Dieu et la vie des hommes. Il y a une filiation en Dieu et il y a une filiation dans le genre humain, et qui n'est pas simplement une réalité de généalogie. C'est une réalité de transmission. Transmettre la vie qui vient de Dieu, c'est cela bénir, c'est faire émerger la vie de Dieu chez un être. Si je vous bénis, ou si dans un couple, des conjoints se bénissent mutuellement, ou si des parents bénissent leurs enfants, ou si dans la vie chrétienne on se bénit, si on dit à quelqu'un « sois béni », voyez, eh bien à ce moment-là, on est en train de faire venir sur cette personne la bénédiction qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu d'abord, qui nous traverse, et nous faisons émerger chez cette personne cette bénédiction de Dieu. Nous lui disons que de la part de Dieu, sa valeur aux yeux de Dieu, qu'elle a du prix aux yeux de Dieu. Et voyez, pour nous, l'enjeu de transmission de la vie va bien au-delà de la question de savoir si nous perpétuons l'espèce humaine ou si nous sommes des papas et des mamans. Il y a plein de célibataires, il y a des couples sans enfants qui ont aussi une possibilité d'avoir cette fécondité en bénédiction. Nous avons tous mission de transmettre la bénédiction de Dieu. Nous sommes fils de Dieu et dans l'Épître aux Galates, nous l'avons entendu, nous sommes devenus des fils adoptifs. Fils adoptifs parce que Jésus, qui est le Fils éternel, élargit cette filiation à nous en nous incorporant à lui. Et nous devenons fils. Donc nous recevons une bénédiction de notre Père. Et donc nous sommes tous des fils appelés nous-mêmes un jour peut-être à exercer une forme particulière de la paternité ou de la maternité qui consiste à avoir des enfants. Mais peu importe, d'une certaine manière, le plus important quand on a des enfants, ce n'est pas qu'ils naissent, c'est que nous soyons capables de les bénir. C'est que nous soyons capables non pas de les procréer, mais de les engendrer. C'est-à-dire de les faire exister, de faire qu'ils reçoivent leur vie de celui qui en est la source, en transmettant la bénédiction de la part de Dieu le Père. Et si nous n'avons pas d'enfants, c'est mon cas, nous avons tous mission de transmettre à tous les hommes cette bénédiction de Dieu pour que tous entrent dans cette vie de fils adoptif. Nous pouvons, c'est étonnant, c'est même dramatique, nous pouvons passer notre vie sur la terre en passant à côté de l'essentiel, c'est que nous sommes des êtres posés dans la vie, dans l'être, dans l'existence, en position filiale, avec une vocation filiale. Et il y a des hommes sur la terre qui peuvent vivre leur vie sans que jamais personne ne leur dise qu'ils sont des fils du Père et qu'ils sont aimés du Père des cieux. C'est incroyable, c'est étonnant, c'est même injuste. Ça devrait nous indigner, ça devrait nous pousser à le crier dans les rues et sur les toits et sur les réseaux sociaux, dans tous les médias. Mais en fait, vous êtes aimé de Dieu le Père. Et moi qui ai reçu cette bénédiction, je vous la transmets. Vous voyez, il y a une sorte de sentiment très archaïquement ancré dans le cœur humain, cette idée que ce serait une bénédiction, ce serait un bienfait d'avoir une descendance. Et donc, on voit dans les temps anciens, mais cela reste très vrai pour beaucoup, de penser que s'ils ont une progéniture, s'ils ont... D'ailleurs, il y a un psaume, « Ta femme sera comme un plant d'olivier, une vigne généreuse et avec tous tes enfants autour de la table. » Cette idée que d'avoir une descendance serait une sorte de nécessité viscérale, vitale. Mais ce que cela révèle, parce que ce dont nous avons en fait le plus besoin, ce qui est notre vocation la plus profonde, c'est que nous sommes faits pour une vraie fécondité qui ne se mesure pas... au nombre d'enfants à qui l'on donnerait la vie, mais qui se mesure à cette transparence que nous avons à la bénédiction de Dieu, cette capacité à laisser s'écouler les bienfaits de Dieu sur ce monde. Eh bien, frères et sœurs, la Vierge Marie, Mère de Dieu, est celle par qui cela nous est rendu possible. C'est celle qui a concentré sur elle la plus grande des bénédictions dans sa maternité. C'est elle qui est bénie entre toutes les femmes parce qu'elle est la seule femme qui nous a donné la source de toute bénédiction. Elle est celle qui, en nous donnant son Fils, nous a donné celui qui est le béni de Dieu. Saint Paul dit « Dieu nous a bénis dans le Christ ». Voilà la bénédiction la plus grande. Et Marie nous a donné cette bénédiction de Dieu. Et parce que Marie l'a fait, nous donner... cette bénédiction, elle a fait de nous de possibles sources de bénédiction. C'est elle qui nous rend capables et qui rend possible le fait que nous-mêmes nous transmettions cette bénédiction. Elle a inauguré cette chaîne, cette cascade de bénédiction sur la terre. Elle est le porche d'entrée incroyable de cette bénédiction de Dieu qui s'écoule sur le monde et que nous pouvons relayer. Vous voyez ? Et donc, Marie nous apprend à bénir, elle qui est bénie entre toutes les femmes et dont le fruit du sein est béni. Alors, frères et sœurs, cela nous révèle quelque chose d'important sur notre combat spirituel. Dire que nous sommes faits pour transmettre une bénédiction que nous avons reçue, ça veut dire que nous ne sommes pas la source. Imaginez dans un couple, je suis la source de ta bénédiction, ma chérie, tu as beaucoup de chance de m'avoir, grâce à moi, tu es bénie. Je te bénis en mon nom. Et pour qui tu te prends, toi? Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et d'abord, un conjoint ne pourra jamais combler son conjoint. Hein. Si vous avez encore cette illusion, ceux qui sont mariés, je vous remets tout de suite les choses droites à l'équerre, hein, c'est pas possible. Vous ne pourrez pas combler votre conjoint, ok? Voilà. Et personne n'est de soi-même la source du bienfait et de la bénédiction pour l'autre. Par contre, nous pouvons mutuellement, là, il y a des frères et sœurs, il y a une fratrie, ils sont là, ils boudent, mais ils sont là quand même, et ils peuvent se bénir mutuellement, pas parce qu'ils auraient chacun des qualités extraordinaires, mais parce que Dieu leur donne de bénir. C'est Dieu qui nous traverse. Et cela veut dire qu'il y a un combat chez nous, c'est de penser que nous sommes la source de grands bienfaits pour les autres. Et c'est difficile peut-être déjà d'accepter que j'ai besoin de recevoir des autres une bénédiction. J'ai besoin de la recevoir de Dieu. Je ne m'engendre pas moi-même, je ne m'auto-engendre pas moi-même. Et ce que je vais donner de plus beau, c'est ce qui m'aura été transmis de Dieu. Si je ferme mon cœur à la vie de Dieu, je transmettrai rien de la vie de Dieu. Je serai un être sec, aride, infructueux. Et donc il faut que je sois une terre qui se laisse humidifier par la rosée de la grâce de Dieu pour porter du fruit. Il faut que je reçoive pour pouvoir redonner. Il faut que je consente à me laisser aimer pour aimer vraiment comme Dieu aime. Il faut que je donne ce consentement, voyez. Et c'est difficile de consentir, se laisser aimer de Dieu et se laisser aimer de son prochain. Se rendre vulnérable à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain. Alors regardons Marie. Vous voyez, Marie, elle se laisse visiter par l'ange. Elle aurait pu dire, non, vraiment, c'est trop pour moi, là, puis j'ai vraiment mieux à faire. D'accord ? Non, mais tu me demandes un truc, là. Marie se laisse faire, elle consent. Et quand on se marie, on parle d'échange des consentements. On consent à l'autre. On consent, c'est-à-dire... On accepte de se rendre vulnérable à l'autre, de se laisser aimer par l'autre. On consent à ce qu'est l'autre. On consent à se faire visiter par l'autre, à être véritablement connu de lui, y compris dans nos fragilités. Voyez ? Et donc, c'est cela qu'il nous faut apprendre. Et il y a un combat en nous, parce que nous résistons parfois à nous laisser aimer, à nous laisser traverser, et Marie se laisse traverser. Elle est ce porche que Dieu traverse et qui répand sur ce monde les bénédictions, des bénédictions éternelles, celles qui nous restaurent dans notre vocation filiale. Et oui, c'est la dignité de l'homme, ça. C'est la dignité, la grande dignité de l'homme. C'est... de pouvoir être traversable par Dieu, d'être poreux, d'être perméable à la vie de Dieu. C'est ça la dignité de l'homme. Vous voyez, il y a des débats actuellement, il y a des gens qui disent « mourir dans la dignité ». De quoi ils parlent ces gens? Est-ce qu'un mourant ne peut pas être traversé par Dieu? Est-ce qu'un grabataire ne peut pas être traversé par Dieu? Est-ce qu'un handicapé ne peut pas être traversé par Dieu? La dignité dont ils parlent, c'est quoi? C'est l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, qu'ils ne veulent pas voir se flétrir et se dégrader? Mais c'est quoi cette dignité stupide et puis insultante? Parce que la vraie dignité d'un être, elle est donnée de Dieu. Elle ne passe pas. Elle est éternelle. Et chaque être est comme un diamant placé à être mis dans la lumière. Ah oui, si je le regarde... se salir sur lui dans son lit. Non, je suis appelé en le secourant et en exerçant la charité envers le pauvre et le malade, à le mettre dans la lumière de Dieu et à le voir dans sa dignité véritable et éternelle. Et Marie nous montre cette dignité si belle, c'est que nous sommes appelés à nous être traversés par Dieu. Pour conclure, frères et sœurs, aimons et prions Marie. Moi, j'ai du chagrin pour ceux qui n'ont pas de dévotion à Vierge Marie, pour les chrétiens qui rejettent la prière à Marie. Je trouve que c'est triste pour eux quand même, j'ai du chagrin pour eux. C'est un magnifique joyau dans le ciel, la Vierge Marie, dans la gloire du ciel. Et sur ce diamant-là, de ce diamant-là se réfracte une lumière dans toutes les directions, absolument splendide. Alors, voyez, je pense que Marie nous apprend à accueillir Dieu et sa volonté. Et vous voyez, je vous invite à faire une place à Marie dans votre vie. Moi, j'essaye tous les jours de dire mon chapelet. Alors, il y a quelques décennies, on disait chapelet, c'est un truc pour des vieilles bigotes un peu barbues qui sentent pas bon au fond des églises, on va reléguer ça, voilà. Non. Priez Marie. C'est garantir que nous allons nous laisser faire par le Seigneur et nous n'allons pas nous prendre au sérieux. Vous voyez ? On ne va pas se prendre au sérieux parce qu'on va consentir à être des enfants de Dieu. On va consentir à se laisser visiter par le Seigneur. On ne va pas crâner devant le Seigneur. On va se laisser aimer. Il faut avoir un chapelet dans votre poche, hein, les amis. Et puis il faut égrener, prier à Vierge Marie. Elle nous maintient les pieds sur terre et dans cette juste position spirituelle qui nous aide à consentir à la volonté de Dieu, à être dans cette juste relation filiale. Voilà, que Marie accompagne cette année qui s'ouvre pour chacun de nous dans nos familles, qu'elle nous aide à grandir dans notre vie intérieure, qu'elle aide aussi l'Église, qu'on a bien besoin en ce moment, à être bien purifiée et sainte, qu'elle aide les ministres de Dieu à le demeurer aussi, qu'elle déroule le tapis rouge pour le pape Benoît XVI, et qu'elle soit vraiment celle qui nous accompagne tout au long de cette année. Amen.